Radio Campus Paris, Grégoire Larrieux, Pierre-Yves Valin, il est 20h et c'est l'heure de Tête de Com.
Tout se réduit à de la communication aujourd'hui.
Tête de Com.
Radio Campus Paris.
La communication ne décide pas, elle révèle.
Tête de Com, l'émission qui te remet les idées au clair sur la communication.
Comment je pisse au cul à certains journalistes. Beaucoup de journalistes, dont vous, et vous faites partie. Alors c'est pour ça que je le sors. Parce que je continue à dire que je leur pisse au cul.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Tête de Com. On se retrouve pour cette quatrième émission qui cette fois-ci va vous remettre les idées au clair sur la communication des sportifs de haut niveau. Alors je suis sûr que plusieurs de nos auditeurs ont déjà en tête les phrases cultes de Franck Ribéry comme par exemple « La roue tourne, va tourner », mais ce n'est pas le seul sportif à s'illustrer par des difficultés de communication. Il faut dire qu'un sportif est d'abord présent pour réaliser des performances individuelles ou collectives et qu'il n'a pas toujours préparé sa communication, voire ne s'y intéresse pas vraiment. Et pourtant, en cette année 2016, riche de plusieurs grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques de Rio et l'Euro de foot en France, les sportifs sont plus que jamais sur le devant de la scène. Les médias et le public veulent des informations de leur part, alors les sportifs communiquant malgré eux.
Tête de Com.
Pour y répondre ce soir, comme d'habitude, deux invités. Fanta Keïta, bonsoir.
Bonsoir.
Fanta, tu es étudiante à l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, et tu suis la formation Sportcom. C'est une filière qui propose plusieurs voies de spécialisation et tu as choisi celle du journalisme. Tu suis d'ailleurs le cursus du Centre de Formation des Journalistes. L'INSEP, pour information, c'est le lieu privilégié en France pour le sport-études ainsi que pour s'assurer une belle carrière sportive et professionnelle. Pour intégrer l'INSEP, il faut de très grandes aptitudes dans un sport et pour toi c'est le handball, tu joues arrière-droite dans le club de la Stella Saint-Maur qui est en deuxième division. Jean-François Salissi, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-François, tu es dirigeant fondateur de l'agence Pimiento, une agence de marketing, de représentation de sportifs et de personnalités. Avant cela, tu as été pendant 5 ans le directeur général du Cercle des nageurs de Marseille. C'est un lieu d'entraînement pour les nageurs de haut niveau, dont certains font partie de l'équipe de France. Tu as donc toujours été proche du milieu sportif et la natation ne t'a pas quitté puisqu'à l'agence Pimiento, tu gères l'image entre autres de Camille Lacour, Florent Manaudou et Fabien Gillot. Et dans d'autres disciplines, tu conseilles aussi Alizé Cornet qui est une joueuse de tennis et Sylvain Wiltord, joueur de foot retraité qui a notamment gagné l'Euro 2000 avec l'équipe de France et joué dans de grands clubs européens.
Tête de Com.
Alors Jean-François, on a entendu... au début, dans la présentation de Pierre, il parlait de Franck Ribéry, la roue tourne va tourner, des phrases un petit peu mythiques comme ça. Pourquoi on a l'impression qu'en général, les sportifs sont nuls en communication?
C'est quand même assez réducteur, mais je pense que c'est parce que le sens de l'histoire, c'est que on a besoin d'égérie, on a besoin d'icônes, et donc ces gens-là sont très regardés, et ils ne sont pas toujours préparés ou accompagnés, et donc ça donne quelques accidents industriels que vous avez cité, mais honnêtement, il y a d'autres corporations qui peuvent avoir le même sentiment. Faut savoir que le sport ne laisse pas beaucoup de place à d'autres activités quand on est comme Fanta dans des horaires très très denses, et donc on n'a pas les mêmes capacités de formation et de préparation que le commun des mortels.
Fanta, comme on l'a dit dans la présentation, tu es sportive à l'INSEP, tu fais du handball. Quelle formation en communication l'INSEP dispense à ses sportifs? Déjà, est-ce qu'il y a vraiment une formation par rapport à ça? Est-ce qu'on t'entraîne par exemple à parler aux médias, aux journalistes?
Pour nous, c'est vrai que vu qu'on est en formation pour être journaliste, on a eu quelques exercices de media training, entre autres. Et c'est vrai que voilà, en s'analysant tous les ans, on a vu qu'il y en avait qui avaient plus des aptitudes à parler plus librement, à être à l'aise à la caméra tout simplement. Et d'autres qui, au contraire, soit étaient bloqués, soit ne savaient pas trop quoi dire, ou au contraire, ils allaient dans des aspects, dans des phrases beaucoup trop techniques au final pour un grand public ou pour un journaliste. Et, Et toutes ces choses-là, au final, bah, le sportif, nous, forcément, on ne se le dit pas au départ que voilà, on va dire une analyse de match, où on va expliquer voilà, le déroulement de notre match, le ressenti. Et donc après, bah, on pense qu'on est bon, qu'on pense qu'on répond à la question. Et au final, c'est vrai que chez les journalistes et chez les médias, bah, ils disent oui, c'est vrai qu'ils répondent moyennement. Et souvent, c'est vrai que voilà, le journaliste, il revient assez vite sur les phrases des sportifs pour résumer un peu plus clairement et surtout pour le grand public.
Moi, je voudrais rajouter aussi que le théâtre du sport, c'est justement un lieu de tragédie, de drame, où il se passe beaucoup de choses en peu de temps. Et on n'a pas toujours la lucidité après une performance pour avoir la bonne analyse ou sortir la bonne phrase. Et que bien sûr, après, c'est mis en exergue. Mais si on mettait tout le monde dans ces conditions-là, peut-être qu'il y aurait aussi d'autres accidents pour d'autres personnes.
Et donc du coup, Fanta, quelles sont les erreurs à éviter quand on s'adresse aux médias? Tu as parlé de ne pas trop rentrer dans des analyses trop techniques pour le grand public.
Voilà, c'est vraiment le ressenti, nous, souvent, qu'on a. C'est après avoir fait un match, après être sorti d'une compétition, tout de suite, quand on a les journalistes qui viennent nous voir, c'est vrai qu'on va parler vraiment comme si c'était le coach ou une analyse d'un professionnel ou d'un expert dans notre sport qui nous le demande. Et c'est vrai qu'on voilà, on va pas forcément penser à se dire voilà, le média ou le journaliste, qu'est-ce qu'il nous demande, qu'est-ce qu'il veut savoir, qu'est-ce que les gens attendent lorsqu'on répond, tout simplement. Et je pense que c'est une des difficultés qu'on a, je pense, tous les sportifs. Après, voilà, il y en a qui sont maintenant plus à l'aise dans tout ce qui est pour répondre au final avec les médias et les sportifs, oui, et les journalistes.
Et du coup, vous l'avez un peu dit tous les deux, il y a une difficulté à se former parce qu'on n'a pas forcément le temps ou qu'on n'a pas forcément une formation qui est dispensée par son club, etc. Du coup, toi Jean-François, les sportifs qui viennent te voir, c'est quoi? C'est leur club qui leur dit « allez voir quelqu'un, nous on peut pas » ou c'est eux-mêmes qui font le choix à un moment donné de venir te voir pour que tu les accompagnes?
C'est souvent eux-mêmes. Bon, moi, j'étais, comme vous l'avez précisé, directeur du Cercle des nageurs de Marseille. Et mon dada a toujours été de travailler sur la reconversion des sportifs ou la formation. La formation, ça passe aussi par du media training. Et donc, quand les nageurs sont venus m'attraper, parce que c'est eux qui sont venus m'attraper pour que je devienne, entre guillemets, leur agent, j'ai mis en place un système au sein de mon agence où une partie de la commission que je prends sur les deals que je fais pour les nageurs, on la met dans un pot commun qui nous permet de faire de la formation. Alors ça peut être basique, vous, des étudiants, des cours de français, parce que des fois, quand on les prépare à la vie active, on ne peut pas se permettre d'avoir trois fautes d'orthographe malgré la nouvelle réforme dans la même phrase. C'est des cours d'anglais pour rester toujours, parce qu'on a des ambitions internationales. Et c'est souvent, et puis ça a été moi, je crois, dans le cadre des sportifs que j'accompagne, 100% des cas, du media training, parce que comme le dit Fanta, la première des choses qu'on apprend, c'est à retourner les choses, c'est-à-dire ne pas répondre de manière unilatérale, se mettre à la place de la personne qui est en face et de savoir à quel auditoire on parle, puis ensuite, dans un instant, un espace de temps très limité, se dire quelles sont les idées forces qu'il faut que je fasse ressortir pour ne pas s'éparpiller en effet dans des choses qui seraient opaques et techniques.
Alors la question, c'est de savoir si tous les sportifs ont vraiment besoin de communiquer. Par exemple, toi, Fanta, qui est issu donc du sport, le handball, qui est un sport pas forcément très médiatique, ou en tout cas qui l'est uniquement lors de grandes compétitions internationales, est-ce qu'on ne se dit pas que quand on fait du hand, on n'a pas forcément besoin d'être formé à la communication parce qu'on ne va pas être sursollicité par les médias?
Moi, je pense justement que c'est un piège parce que pour le coup, tous les sports comme l'escrime, par exemple, ou le judo, qui sont très peu médiatisés, concernant, je parle des médias grand public, et qui le sont uniquement lors, par exemple, de grosses échéances ou grosses compétitions comme les Jeux Olympiques ou les championnats du monde. C'est vrai qu'au final, quand tu interviews peut-être pas Teddy Riner parce qu'il joue très bien avec ça maintenant, il commence à être à l'aise là-dedans, il a compris le truc. Lorsqu'on interviewe un autre judoka ou un autre athlète, c'est vrai que la personne, elle a peut-être pas l'habitude d'être interviewé par des journalistes aussi souvent, aussi sollicité, sur une période très courte comme les Jeux Olympiques, alors que toute l'année, au final, elle a aucun retour de médias ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de vivre des fois dans l'ombre de soit gros sport ou de ne pas avoir tout simplement de médiatisation dans son sport, parce qu'au final, voilà, on se retrouve un jour être au beau milieu d'une sphère médiatique où on doit absolument bien répondre et répondre à tout le monde. Et au final, on ne sait pas vraiment quoi faire parce qu'on ne l'a fait qu'une seule fois durant toute la saison ou une seule fois durant juste sur une année, quoi.
Mais du coup, un petit peu le revers de la médaille, c'est que, on a des gens qui ne sont pas préparés, mais justement, quand ils sont trop préparés, et ça, c'est un peu ce qu'on voit, nous, le public extérieur, on est facilement dans de la langue de bois, donc les propos deviennent insipides, le sportif ne nous raconte pas grand-chose, et au final, personne n'y gagne. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur d'être piégés? Est-ce que c'est ce que vous leur conseillez, de bloquer comme ça les messages, Jean-François?
Moi, je pense que je suis peut-être un contre-exemple, mais moi, je leur dis toujours d'être très naturel, et de dire vraiment ce qu'ils ont au fond d'eux, parce que les gens qui écoutent ou qui voient à la télé le ressentent. Après, c'est une question de forme, et le fond, c'est différent. Le fond, c'est justement aller au bout des choses et s'exprimer avec sincérité, authenticité, parce qu'en effet, quand à chaque match de foot, on voit le type qui dit « Ah oui, je suis content pour moi, mais c'est le collectif qui compte », alors qu'on sait qu'ils se battent dans les vestiaires. Ça on en a tous marre, et je dirais que d'ailleurs le succès des nageurs l'été 2010 est venu aussi de la continuité de l'Afrique du Sud, de la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud, et des fameux épisodes du CAR, parce qu'ils se sont dit enfin des athlètes qui se taquinent, qui rigolent, qui sont naturels, etc. Donc nous, des fois, souvent même, on a pu penser qu'on dépassait les limites, mais les gens l'attendent, parce qu'on est tellement dans une société un petit peu, on va dire, aseptisée, et quelquefois même de fake, que, en tout cas pour mon compte, les sportifs dont je m'occupe gagnent à être naturels et vrais.
Mais tu fais la comparaison, Jean-François, avec le foot, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. On le voit que les sportifs, chez les nageurs par exemple, ils s'entendent très bien entre eux. Enfin, en tout cas, on l'imagine.
Pas toujours.
C'est ce qu'il nous semble voir, mais c'est vrai que c'est souvent des interviews groupées en même temps, puisqu'on les fait réagir, par exemple, quand ils sont en relais, on les fait réagir tous les quatre. Du coup, vous les entraînez à parler ensemble, à se répartir la parole, est-ce qu'il y a un esprit d'équipe qu'il n'y aurait pas dans les autres sports par rapport à la communication, notamment?
Alors, théoriquement, il ne devrait pas y avoir d'esprit d'équipe parce que c'est un sport individuel, et je dirais que c'est parce que c'est un sport individuel que c'est des gens qui vont vers l'équipe, et dès qu'ils ont la possibilité, par exemple, de courir en relais, ils sont catalysés, parce qu'enfin, ils peuvent se donner les uns pour les autres, avec une certaine forme de générosité, mais c'est pas vrai dans une même équipe. Nous, à Marseille, vous savez, on a dans le même bassin 20 personnes qui sont des fois concurrents. Alors ça se voit pas, les médias le voient pas, mais c'est comme une casserole qui bourrée. Et donc, il faut faire très attention. C'est le rôle du manager, des entraîneurs, quelquefois de l'agent qui a été directeur. Mais voilà, c'est vraiment du management, parce que le sport, je me répète, c'est quand même une loupe. Je vois Fanta dont je parle. Et quand on met autant de personnes dans un même endroit avec autant d'obligations de résultats, c'est évident qu'il y a des tensions. Après, c'est la manière dont on le dit, c'est la façon dont on dit les choses qui peuvent être plus ou moins bien pris. Regardez Cantona, j'entendais, c'était des phrases assez dures dans votre introduction, mais au final, c'est un type qui reste dans l'inconscient collectif comme quelqu'un qui aura toujours été intègre. Et quand on reprend votre autre phrase, la roue tourne, va tourner, on a le contre-exemple, mais je crois que dans 50 ans, on se souviendra plus de Cantona, en dehors des aspects sportifs.
Après, c'est vrai que moi, je voudrais rebondir sur le fait que les sportifs qui ont les phrases toutes dites, toutes faites, quelque part, ils se protègent au final. C'est vrai qu'on va prendre l'exemple du foot. Vraiment, aujourd'hui, on le voit sur les résumés, soit de matchs, soit des retours de ressentis des joueurs. On a juste, ça s'est bien passé, il y a eu 2-3 passes, des et tout ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont, le foot qui est surmédiatisé, ils ont cette hantise ou cette peur de dire le mot soit pas assez juste, ou vraiment la phrase qui va peut-être faire un petit scandale dans la séance médiatique, qui fait qu'aujourd'hui, ils se disent tout simplement, je vais dire une phrase qu'ils veulent entendre, qui sera toute faite, qui sera bien, mais au moins ils auront ce qu'ils veulent, et puis on oublie le naturel. Et puis je pense même les clubs les protègent aussi comme ça, et se protègent aussi également du fait de, on a un joueur qui peut plus ou moins être à l'aise à la caméra, qui peut aussi bien parler, ou on peut lui dire de dire des phrases où tout sera lisse, tout sera net. Et c'est peut-être pour cette raison aussi qu'on perd ce naturel-là. Et justement, je pense qu'il faudrait absolument le garder parce que clairement, ça se ressent à la télé, ça ne pardonne pas. Et quand on n'est pas naturel, ça se voit. Et justement, c'est quand on l'est le plus qu'au final, on se délivre complètement et qu'on dit des choses voilà, qui sont correctes, tout simplement.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que voilà, tu parles des sportifs qui se protègent, mais les journalistes, eux, ce qu'ils cherchent, justement, c'est aller au-delà de ce discours tout fait. Et toi, du coup, en tant que futur journaliste, comment tu t'y prendrais pour aller au-delà de ces discours tout faits, aseptisés ?
C'est vrai que c'est un peu difficile à répondre à cette question parce que au final ça dépend complètement du contexte. Est-ce qu'on va être sur un scandale, est-ce qu'on va être sur un joueur qui en ce moment est en échec, est-ce qu'on est sur un athlète qui est en pleine réussite, en pleine possession de ses moyens. Mais voilà, ça va dépendre. On sait qu'aujourd'hui des fois après des conférences, après des interviews, il va y avoir des scandales parce que voilà, les journalistes ou les médias vont prendre une phrase qui au final va peut-être mettre un petit peu soit en danger ou un peu voilà, à mal soit un club, soit une personne. Et donc c'est vrai que je pense, moi, pour ma part, si j'avais été ces journalistes-là, j'aurais tout simplement, peut-être hors caméra, je mettrais à l'aise les sportifs, les athlètes, en leur expliquant tout simplement le sujet. Et puis ensuite, après, voilà, parler plus librement avec eux sur antenne.
Toi, Jean-François, est-ce que tu t'as dit, par exemple, le sportif parfois est mal, il est en échec, ça le journaliste ne le sait pas. Est-ce que toi, tu conseilles des fois à tes sportifs de ne pas communiquer à un moment donné, de faire l'impasse parce que tu sens qu'eux, ils ne sont pas dans les dispositions et ça peut déraper
D'abord, si c'est un bon journaliste, il le sait. Et puis après, comme dit Fanta, il y a ceux qui ont de la bienveillance et qui vont mettre à l'aise les sportifs. Et souvent, c'est ceux qui, au bout de l'interview, vont arriver à avoir une information plus importante que celui qui va attaquer, qui l'est beaucoup moins, qui est dans l'immédiateté. Et on sait que les médias aujourd'hui sont beaucoup dans l'immédiateté et qui donnent des fois des situations vraiment indélicates. Mais je dis, le sportif, c'est quelqu'un qui a une activité comme une autre. C'est comme si vous, en tant qu'étudiant, en début d'année, on vous interrogeait, puis après la veille d'un partiel, puis au sortir du partiel, etc. Ben, ça donnerait des situations, à mon avis, assez amusantes aussi. Voilà, donc je voulais juste rajouter tout à l'heure autre chose. C'était qu'il y a différents niveaux. Tout à l'heure, Fanta parlait de Teddy Riner. Moi, quand je prends un sportif, en effet, il y a le sportif qui ne répond que de son activité et de sa pratique. Et je dirais que c'est plutôt simple quand même, parce qu'il a la matière sportive et la matière technique à donner. Donc c'est juste, je dirais, construire le discours pour que ça soit intelligible au grand public. Et puis après, il y a les sportifs qui sortent du cadre sportif, comme Teddy Riner, comme certains que j'ai, comme Florent Manaudou, Camille Lacour, comme Laure, etc. Et là, c'est autre chose. Et c'est une autre forme de préparation, mais il faut le faire avant que ça arrive, et il faut juger le moment pour lequel il faut le faire. Je donne un exemple. Florent Manaudou, que j'ai récupéré, c'était pas quelqu'un qui était plutôt porté vers la communication. C'est quelqu'un qui, la première fois que je l'ai vu, m'a dit « je travaille avec toi parce que je vois ce que tu fais avec les autres, mais je te préviens, je suis timide ». J'ai dit bah, « écoute, je compte pas te faire danser au Crazy Horse, donc y a pas de problème ». Il me dit « oui, mais quand même, je te préviens, je suis timide ». J'ai dit « bah écoute, ça se travaille ». Et aujourd'hui, au moment où on parle, c'est peut-être un des meilleurs dans les médias. Alors, au passage, il y a eu du travail comme dans tout. Et je me souviens d'un épisode. On était avant les championnats de France qui étaient qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Et je lui dis, tu sais, là, il faut qu'on refasse du media training. Il me dit, mais pourquoi on en a fait, etc. Je lui dis, parce que là, on va passer dans une autre division. Mais il me dit, pourquoi ? Je ne suis pas encore qualifié. Je lui dis, mais justement, si tu es qualifié, on ne va plus te parler de tes résultats. On va commencer à te parler de tu rejoins ta sœur dans le panthéon du sport, du truc, etc. Fait des questions qui vont être beaucoup plus extérieures au sport. Et ça se prépare. Comme ça se prépare aussi la gestion de crise et le sport, donc qui a un focus particulier, ben il peut y avoir aussi des crises. Moi personnellement, pour vous dire, je me fais aider par une agence qui s'appelle l'agence Majorelle et sa dirigeante Anomel qui intervient notamment dans la communication
politique.
Voilà, ouais. La communication politique. Et c'est assez fréquemment que je prends ses conseils pour gérer. Des choses qui sont très extra-sportives, parce qu'aujourd'hui, les sportifs sont devenus aussi des personnalités ou des people.
On se retrouve juste après Haunted House de The Madcaps. Have you seen that? Nous sommes toujours sur le plateau de Tête de Com en compagnie de Fanta Keita qui est étudiante à l'INSEP dans la formation Sportcom et également joueuse de handball arrière droite au club de la Stella Saint-Maur, et puis avec Jean-François Salessi qui est fondateur de l'agence Pimiento.
Alors on a essayé de voir dans la première partie pourquoi les sportifs n'étaient pas toujours très bons avec les médias et quelle pouvait être leur formation. Mais au contraire, il y a un domaine dans lequel ils sont plutôt très bons, c'est celui des réseaux sociaux. Ils fédèrent énormément de monde. Si on regarde, par exemple, les sportifs français les plus suivis, Benzema, c'est 3,6 millions de followers sur Twitter, 21 millions de fans sur Facebook. Et derrière, c'est Varane et Nasri, 2,6 millions de followers. C'est plus que la grande majorité des artistes français, beaucoup plus que toutes nos personnalités politiques. Alors, selon toi, Jean-François, qu'est-ce que les gens attendent des sportifs sur ces réseaux sociaux ? Pourquoi ils sont si suivis que ça ? Alors,
déjà, il faut partir sur le phénomène des réseaux sociaux. C'est un nouveau terrain de jeu, même aussi pour les partenariats et les sponsors. Je vais faire un petit peu de philo, parce que je suis avec des étudiants, mais il y a un célèbre philosophe, Michel Serres, qui a écrit un livre fabuleux qui s'appelle « Génération Poussette » et qui explique, au moment où on parle, toutes les conséquences du fait qu'avec son portable, on ait accès à toutes les informations du monde entier à l'instant T, et c'est pas neutre. Et donc, les sportifs qui sont des personnalités, des icônes, dans des sports qui sont très populaires comme le foot, sont très suivis. Après, vous dites qu'ils sont très bons, quantitativement, pas toujours qualitativement, parce que c'est la même chose que pour les médias. On peut avoir, je pense même qu'il y a eu un livre qui a relevé toutes les phrases, en tout cas toutes les rédactions un peu aléatoires de sportifs. Il y a Nelson Monfort qui l'a fait pour les interviews, mais je sais qu'il y a un truc qui a été fait aussi pour les tweets et pour les posts Facebook. Là aussi, c'est un vrai travail, et c'est un vrai travail d'accompagnement. Parce que ça peut donner vraiment de drôles d'accidents, notamment quand on révèle des informations en temps réel qui n'étaient pas automatiquement à donner sur des sélections d'équipes ou des qualifications. Donc voilà, là vraiment il y a un vrai autre travail à fournir avec les sportifs.
Tu parles, Jean-François, de tu viens de parler de du coup de d'accompagnement derrière les comptes Twitter et Facebook des sportifs. Est-ce que ce sont vraiment eux qui postent des messages ou est-ce que dans le cas de tes clients c'est l'agence Pimiento qui est derrière les comptes et qui valide les messages avant de les poster?
Les deux, mon capitaine. Ben c'est simple. D'abord, comme pour les médias, il y a un travail en amont qui est fait et justement, selon le sportif, il est plus ou moins actif parce qu'on est différent vis-à-vis des réseaux sociaux. Et je crois même qu'on retrouve la personnalité des gens par le prisme des réseaux sociaux. Et donc, par contre, ce qui est sûr, c'est que les sportifs, qui sont des gens qui sont exposés et qui ont besoin aussi des fois d'une exposition pour, dans mon métier, trouver des sponsors et des partenaires, sont obligés d'utiliser ce canal. Là encore, moi je suis contre le fake, donc l'accompagnement ça veut dire faire avec, faire avec ça veut dire proposer une rédaction, ça veut dire imposer une certaine fréquence, parce que dans les réseaux sociaux ce qui est important aussi c'est de faire vivre, que ça soit son Facebook, son Twitter, son Instagram, son blog, et ça c'est ce qu'on fait nous à l'agence Pimiento. Évidemment, des fois ça donne. Il y a quelques accidents plutôt limités, mais on les a tous formés, un par un, à ce que sont les réseaux sociaux et à l'attention particulière qu'il faut avoir, puisque c'est une carte sur sa vie privée.
Fanta, toi, est-ce que tu es justement sur les réseaux sociaux? Et si oui, comment tu te comportes par rapport à ça?
Bah, je suis sur les réseaux sociaux. Après, voilà, je n'interagis pas non plus énormément sur Facebook ou Twitter. Twitter un peu plus, parce qu'après, c'est plus dans le domaine de ma formation qui nous demande maintenant un petit peu à avoir un point de vue plus professionnel et donc vraiment à avoir, entre guillemets, une couverture. Et donc, après, au-delà de ça, Twitter, je sais que c'est un outil essentiel et vraiment, il faut le dire, efficace pour les journalistes ou même les sportifs. C'est vraiment une porte d'entrée ou un lien à amener un dialogue ou vraiment avoir des contacts, tout simplement, avec les personnes. Après, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a des sportifs, je pense pour la plupart, qui tiennent quand même leur propre page sur les réseaux sociaux. Je sais que les handballeurs, pour la plupart de l'équipe de France, c'est eux qui les tiennent. Après, oui, il y a un vrai jeu entre les réseaux sociaux, entre les journalistes, entre les médias et les sportifs. Parce que c'est vrai que les sportifs, ça va vraiment être sur les fans, mais aussi par rapport à leur club, c'est par rapport à leurs sponsors, à leurs partenaires. Il y a vraiment aujourd'hui une dimension, je pense, qui a pris les réseaux sociaux, parce que c'est, voilà, tout le monde peut voir tout. Et tout le monde peut aussi se faire voir. Donc, je pense pour les sponsors, c'est vraiment un outil essentiel qui permet de les montrer en fait en plein jour au grand public par le biais de leurs sportifs. Mais au-delà de ça, c'est vrai que je pense les réseaux sociaux, ils ont vraiment un rôle et une grande place dans la communication des sportifs. Oui.
En fait, moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est neutre. On peut en avoir peur parce que c'est un nouveau média, et c'est une autre forme d'exposition, mais on y trouve ce qu'on veut bien apporter. On n'est pas obligé de s'exposer, on n'est pas obligé de répondre, on n'est pas obligé d'être dans la réactivité. Mais la particularité des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont dans l'immédiateté. Et donc, un peu comme la presse Internet, il y a quelques années, et pas tant que ça, je ne vais pas faire le vieux combattant, mais on attendait le matin pour lire l'équipe et avoir l'analyse. Aujourd'hui, on est sur l'équipe.fr. Et on a les résultats en direct quand on ne les a pas visuellement. Et donc, cette immédiateté, elle peut être dangereuse parce qu'elle limite l'analyse, elle est dans la réaction à chaud. Et là encore, que ce soit le sportif ou la personnalité ou le comédien ou le chanteur, etc., ça peut donner des choses qui, après, à froid, peuvent porter à la critique ou à la confusion. Il y a Claude Onesta, puisqu'on est dans le hand, qui a écrit sa biographie il y a 2-3 ans, mm-hmm. et qui consacre tout un ouais. chapitre justement sur cette immédiateté de l'information dans le sport, qui donne même des fois des conséquences sur la gestion des hommes pour les entraîneurs, parce que l'information qui devait être tue se diffuse.
C'est exactement ça.
Est-ce que tu te fixes des règles sur les réseaux sociaux, Fanta ?
Pas forcément, pas spécialement. Après, il y a toujours, je pense, comme tout le monde, cette règle d'avoir quand même une vie privée, de ne pas tout montrer sur les réseaux sociaux. Et je pense que, comme disait Jean-François, c'est que, voilà, avec les réseaux sociaux, on peut aussi mettre ce qu'on veut. Donc, quelque part, le sportif choisit ce qu'il veut mettre, choisit ce qu'il veut montrer. Et c'est vrai que y a une certaine sécurité quand même qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux, parce que quelque part c'est nous qui contrôlons notre image, et voilà, on fait ce qu'on veut. Si on veut publier quelque chose qui nous défavorise, ben voilà, c'est notre plein gré. Mais au-delà de ça, non, honnêtement j'ai pas vraiment de règles, voilà.
Alors on le sent un peu, et Jean-François, tu as commencé à en parler tout à l'heure, tout va plus vite avec les réseaux sociaux, la parole est instantanée, elle est plus facile aussi à émettre pour les sportifs, et du coup les dérapages sont également plus fréquents.
Y compris pour les journalistes.
Et c'est super bien pour les journalistes.
Non, y compris pour les journalistes.
Y compris pour les journalistes aussi, ouais. Mais du coup on a des exemples de dérives, alors ça va te parler, les nageurs australiens qui posent avec des armes à la main sur Facebook, ou plus récemment un jeune joueur de foot qui a été viré du FC Barcelone parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des années en avant il avait tweeté sur des trucs anti-Catalogne, donc en fait ils l'ont viré, l'archivage du web fait que voilà, aujourd'hui on est repris par la patrouille. Toi, comment tu accompagnes tes sportifs par rapport à cette communication là pour bien leur dire de faire attention à tous ces risques là?
Moi, vous avez compris que je suis contre la censure et plutôt pour la liberté de parole. Je leur dis tout simplement que c'est un passage obligé et qu'ils contrôlent le message qu'ils donnent. Donc, en définitive, il vaut mieux l'utiliser parce qu'autrement, et c'est ce que j'ai dit quand Laure Manodou a souhaité travailler avec moi, elle était, je dirais, dans la peur totale des médias, puisque à plusieurs reprises elle a été volée voire violée, et un de mes succès avec Laure, ça a été de lui faire comprendre que les médias, mais on peut l'appliquer aux réseaux sociaux, si on veut parler au grand public, ben c'est un passage obligé, mais que si on veut ne pas se faire violer, il faut justement donner, et quand on donne, on contrôle ce qu'on donne.
Violer sa vie privée, on entend, hein, c'est ça?
Ouais, violer sa vie privée, ouais.
À 6 ans.
Ouais, et voilà, et donc il faut quand même, moi c'est ce que je leur dis, donner, parce que c'est devenu des personnalités, et donc les gens attendent que ces gens-là pas s'expriment sur les faits sociétaux, mais s'expriment sur en tout cas ce qui est l'environnement qui les entoure, et donc moi je les encourage plutôt. J'ai un contre-exemple, c'est celui de Fabien Gillot qui pendant longtemps me dit mais c'est pas la vraie vie, etc. Et puis au fil du temps, donc je lui dis, écoute, tu fais ce que tu veux, mais c'est dommage parce que regarde, moi aujourd'hui on m'achète des posts Facebook, alors là on pourra en parler après, quand les gens ou les annonceurs ou les partenaires viennent me voir, ils me disent combien celui-là a de fans ou de twittos, et donc ça devient un élément important. Et donc ces derniers temps il m'a dit tu as raison, et il essaie de rattraper le retard depuis, mais il est parti avec du retard. Donc voilà, c'est quand même un passage obligé, mais on contrôle ce qu'on donne.
Et on a, pour parler plus du public, qu'est-ce qu'ils attendent comme information, le public, de ces personnalités sportives?
Ben c'est divers, c'est varié, parce que quand on clique sur une page fan, par exemple, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est difficile à savoir. Alors c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure des chiffres du foot, il y a beaucoup de fans de foot qui se retrouvent, et c'est pour ça qu'on a des chiffres sidérant pour les sportifs qui pratiquent le foot. Attention, moi dans mon domaine, les marques contrôlent aussi le taux de réactivité. Donc il y a des éléments pour mesurer si les gens qui sont là sont des gens volatiles ou des gens qui sont vraiment attachés à la personnalité. Et quelquefois, ils vont choisir plutôt des gens qui ont moins d'audience, mais une audience qualitative et des réseaux sociaux plutôt bien, je dirais, soit archivés, soit orchestré, et il faut faire attention, nous, quand on est agent d'image ou accompagnant, à pas justement dénaturer la parole. Et quand on fait, comme ça arrive, hein, autant le dire, puisque votre émission s'appelle Tête de Com, des fois des communications qui sont plus institutionnelles, il faut qu'il y ait aussi une dose, une part de véracité, autrement on s'y perd.
Fanta, on a commencé à parler de polémique. Là, Jean-François parle de communication plus institutionnelle. On sait que des fois, ça peut se choquer, la communication du sportif sur sa personne, enfin, son parcours, sa carrière, etc. Et celle de son club ou de sa fédération. On a des exemples comme ça de sportifs qui annoncent qu'ils vont être transférés alors que le club dit « Non, non, il va rester chez nous ». Toi, est-ce que ton club, par exemple, te donne des consignes sur ce que tu peux... dire ou te passent les messages que voilà transmettent de leur côté.
Bah c'est vrai que maintenant de plus en plus les clubs ils le font vraiment même les entraîneurs ils nous le disent lors de soit grosses échéances ou pour le cas dans le handball de gros matchs ils nous expliquent voilà si de pas trop des fois être présent sur les réseaux sociaux justement pour ne pas amener vraiment de gros attentes ou de gros engouements sur l'événement, voilà, de rester plutôt discret justement sur, par exemple, je sais pas, les Coupes de France quand on rencontre des grosses équipes et c'est pareil pour le club justement sur la communication, ils vont plus nous demander des fois à être plus discret ou justement à amener plus de gens à interagir sur la page du club ou sur les réseaux sociaux.
Jean-François.
Dans le même espace-temps, il y a aussi un autre phénomène, c'est que dans les réseaux sociaux, c'est réactif. Et donc, il y a aussi des sportifs qui sont atteints par ce qui peut être dit. Donc, des fois, on peut leur conseiller de couper la vision des réseaux sociaux. En tout cas, tout à l'heure, je vous disais qu'on est vis-à-vis des réseaux sociaux comme on est dans la vie. Il y a des gens sensibles et des gens qui, des fois, sont déstabilisés par des remarques qui ne sont pas toujours d'un très haut niveau sur les réseaux sociaux, puisqu'on ne contrôle pas, par contre... l'effet inverse, c'est-à-dire les gens qui réagissent. Et donc, ben moi, j'ai des exemples de gens qui arrivent, et je m'excuse, mais je vais faire une frontière quasiment sexuelle. C'est-à-dire que moi, en tout cas, j'ai des exemples de filles, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche quand on me connaît, plutôt sensibles et qui ont, par le passé, été très altérées à la veille d'une compétition de certaines remarques sur les réseaux sociaux. Et des sportifs, d'autres sportifs qui sont plutôt des garçons, dans mon cas, mais j'en fais pas une règle, qui ont tiré une forme de motivation pour faire taire justement certaines remarques.
Mais du coup, ça veut dire, c'est intéressant ce que vous dites, parce que du coup, il n'y a pas les mêmes profils. Et Fanta, tu disais que le club va te dire plutôt de moins communiquer, plus communiquer. Est-ce que du coup, c'est vraiment eux qui, entre guillemets, vous utilisent ou vont définir un porte-parole, quelqu'un qui ne va jamais parler, quelqu'un qui va plutôt souvent parler, ça se passe comme ça ?
Non, du tout. On a tout simplement une personne qui gère la communication tout simplement du club. Après, nous, on est libre complètement de nos choix et voilà, de faire un petit peu... pas ce qu'on veut, mais toujours en restant au final dans l'image positive du club. Après, nous aussi, quelque part, on a ce rôle-là, étant soit professionnel ou dans l'équipe, de la Stella Saint-Maur. Donc, c'est vrai que souvent, le club peut être sur des gros matchs, sur des grosses échéances qui vont amener du monde, qui vont amener un peu de médias sur nous, vont nous demander peut-être d'être... de faire plus attention à notre page, à ce qu'on publie, tout simplement. Mais après, non, il n'y a pas forcément de règles ou de restrictions, ni de contrôle, tout simplement, sur l'équipe.
On attaquera la troisième partie, juste après The Legend of Chavo Guerrero de The Mountain Goats. Born down in El Paso, where the tumbleweeds blow, to the middleweight champ of all Mexico. Dad fought many bloody battles, and he raised four sons. Chavo was the oldest one. Old man Gory could pop like a live grenade. Raised his boys in the way of the trade. Hector and Mondo, young Eddie G. Chavo meant the most to me. Look high, it's my last hope. Chavo Guerrero, coming off the top rope. From Texas seeking fortune and fame, rose pretty quickly to the top of the game. Defender of the downtrodden, king of the hill, tag team champion with Al Madrill. Before a black and white TV in the middle of the night, I'm lying on the floor, I'm bathed in blue light. The telecast's in Spanish, I can understand some, and I need justice in my life. Here it comes. Look high, it's my last.
to try to get beneath my skin. Now your ashes are scattered on the wind. I heard his son got famous and he went nationwide, coast to coast with his dad by his side. I don't know if that's true, but I've been told it's real sweet to grow old. You look high, it's my last hope. Chavo Guerrero, coming off the top rope.
Toujours sur le plateau de Tête de Com, nous sommes en compagnie de Fanta Keita, qui est étudiante à l'INSEP, qui suit une formation sport com et qui joue arrière droite dans le club de la Stella Saint-Maur. C'est un club de handball. Je le précise bien pour tous les auditeurs, c'est pas handball mais handball. Voilà, j'en apprends moi aussi tous les jours. C'est un mot allemand. Donc voilà, Fanta, je tenais à rectifier parce que j'ai vu que tu avais tiqué. Donc je tenais à rectifier quand même.
Voilà,
moi aussi j'en apprends tous les jours et c'est important. Et avec Jean-François Salissi, qui est le fondateur et le directeur de l'agence Pimiento.
Un enfant de la balle.
Un enfant de la balle. on a vu en deuxième partie ce qu'apportaient les réseaux sociaux aux sportifs. Et on a vu aussi que ça pouvait apporter du très bon et en même temps du très mauvais. Pas mal de crises. Jean-François, peut-être juste pour revenir sur la question de la crise. On a vu récemment Valbuena, Benzema. Comment on fait pour protéger des sportifs par rapport à ça? Est-ce que toi, tu as connu des cas de crise assez graves pour tes sportifs?
Oui, j'en ai connu quelques-uns. J'ai même pas envie de les citer. Vous savez pourquoi? Parce que dans 9 cas sur 10, ce qu'on fait, c'est très simple. C'est qu'il faut surtout pas en parler et ne pas communiquer et ne pas répondre. Je vous ai dit que je travaille avec Anomel et la constatation, c'est que il y a des crises, des informations, des bulles qui sortent. Et si on ne veut pas donner vie justement à ces informations, dans 9 cas sur 10, alors des fois, bien sûr, il faut rétablir un certain nombre de choses, mais dans 9 cas sur 10, il ne faut surtout pas réagir, puisque à chaque fois qu'on réagit, et là, j'allais vous donner d'exemples, je ne vais pas vous les donner, parce que si je les donne, je vais refaire vivre ces faits qui sont malheureux, qui sont des contre-vérités, qui sont même quelquefois... aux limites de, je dirais, du fait qui devrait être puni pénalement. Et donc, voilà, la meilleure manière souvent de réagir. Et c'est difficile parce que moi, il a fallu que je fasse des séances avec les sportifs parce que on est comme on est fait et quand on entend des choses qui sont fausses sur soi-même, on a envie d'en découdre. On a envie de rétablir la vérité et c'est difficile de se taire. Et pourtant, c'est la meilleure des choses. Et ils s'en rendent compte quelques mois après. Ils m'ont même remercié dans certains cas. Mais sur le coup, et peut-être que si c'était mon cas, avec mon caractère de sudiste sanguin, j'aurais la même tendance. Mais il ne faut surtout pas réagir.
Je voudrais juste dire quelque chose là-dessus. C'est vrai qu'avec ces histoires, soit de scandale ou lorsqu'on est tout simplement attaqué par les médias, le plus dur, au final, c'est vrai que c'est de ne pas réagir parce qu'au final, il y a des répercussions, pas forcément que sur nous, c'est aussi sur nos familles, sur tout notre entourage, sur le club. Et ça met vraiment des grosses pressions, tout simplement sur le sportif parce que voilà, ça salit l'image du club. Donc il y a vraiment, au final, il n'y a pas que le sportif qui est touché, il y a vraiment tout son monde, tout son entourage autour. Et au final, oui, c'est vrai que c'est la meilleure façon d'y répondre, c'est de rien dire, quoi, tout simplement.
Juste avant la pause musicale, Jean-François, tu parlais de l'importance pour les sportifs d'avoir une communauté de fans sur Twitter et sur Facebook parce que ça pouvait intéresser les grandes entreprises, les marques et les sponsors. Est-ce que c'est pour cela que les sportifs sont principalement sur les réseaux sociaux? C'est pour un enjeu économique?
Non, heureusement que non. Non, c'est, je vous dis, c'est un nouveau canal d'information et il est multiforme, multidimensionnel. Et donc, ils sont là... notamment pour les plus jeunes, parce qu'ils sont eux-mêmes des jeunes geeks et ils prennent plaisir à aller voir d'autres personnes, à faire des rencontres, à voir d'autres sportifs quand ils sont fans d'autres sportifs. Puis c'est aussi un terrain d'exposition et donc ça intéresse les marques à ce titre. Je pense qu'on a, on n'a pas encore tout vu. On est au tout début des réseaux sociaux. On voit même des réseaux sociaux qui commencent à disparaître, d'autres qui prennent le pas. Et donc c'est très très intéressant. Vous savez, quand il y a eu les chemins de fer, il y avait des gens qui manifestaient contre les chemins de fer. Aujourd'hui, ça paraît anachronique. Alors là, aujourd'hui, on a un petit peu peur parce que c'est tout nouveau. Mais bon, on peut se souvenir qu'il y a quelques temps, il y a eu des révolutions dans les pays du Maghreb qui se sont faites grâce aux réseaux sociaux, donc des mouvements de libération ou de liberté. Même si ça ne donne pas toujours, quelques années après, des résultats. Mais voilà, ça, les réseaux sociaux, c'est l'auberge espagnole. Et on y trouve ce qu'on apporte. Et les marques, elles seront évidemment intéressées par ce nouveau champ, parce que en définitive, moi, je préfère que les marques s'intéressent aux réseaux sociaux qu'au bord de route avec des 4x3.
Mais tu parlais d'achat de posts Facebook. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
Pardon.
Non, vas-y, explique. Ouais.
Ça veut dire que, tout simplement, aujourd'hui, il faut savoir que quand une marque fait une grande campagne, elle prend des influenceurs dans tous les domaines. Elle va prendre des chanteurs connus, elle va prendre des comédiens connus, et elle va leur demander en les payant, ils ont le droit de ne pas accepter. Hein, donc nous, il nous arrive, quand c'est là où on a un rôle de conseil, quand c'est trop violent, c'est trop velléitaire, c'est trop intrusif, c'est trop tout, on leur dit non. C'est pas... Mais quand vous prenez... pour une campagne qui est finie, donc je peux en parler, Air France, qui crée sa nouvelle pub, qui sont des pubs toujours très élégantes et esthétiques. Ils veulent montrer que c'est la France qui s'exporte, qui gagne, et ils vont demander à Florent Manoudou, par exemple, de relayer la pub, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est très propre, qui est très neutre, et Florent Manoudou est en droit d'accepter ou de refuser, et il le fait avec plaisir, et en plus, il en a quelques subsides au passage. Bon, c'est pas des sommes astronomiques dans son cas, mais voilà, c'est parce que c'est devenu aussi un champ publicitaire. Et quand on ouvre une page Facebook, nous claque à la gueule tous les pop-up, enfin toutes les bandes de côté avec les pubs, où on se rend compte qu'on est même tracé par rapport à ces visites Internet. Donc voilà, il y aura dans les réseaux sociaux les mêmes écueils, les mêmes risques que dans tous les autres champs d'expression.
Ce que dit un petit peu Jean-François, qui est intéressant, c'est que du coup, il y a un vrai enjeu économique malgré tout derrière, alors sur les réseaux sociaux et en général pour les sponsors, d'autant plus dans des sports qui sont moins médiatisés et où ça va être de vrais revenus complémentaires parce que les salaires de base ne sont pas forcément toujours évidents ou la professionnalisation n'est pas complète. Toi, c'est un petit peu le cas, on imagine, Fanta, dans le handball. Est-ce que du coup, on vous pousse davantage, on vous familiarise davantage avec ces partenariats financiers, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut au contraire les chercher? Comment ça se passe?
Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient vraiment un poids économique qui peut être vraiment intéressant pour les sportifs qui ne gagnent pas beaucoup ou qui sont un peu médiatisés. Après, voilà, pour l'instant, en tout cas, nous... Dans notre club, on nous pousse pas forcément à aller directement vers des investisseurs ou ces choses-là.
On préfère se les garder.
mais c'est vrai que, en tout cas, je pense que les marques, ce qu'ils attendent des sportifs, c'est clairement qu'ils diffusent et qu'ils influencent au final leurs fans et puis leur monde du sport et tout ce qui touche, parce que c'est vrai que Derrière, il y a un enjeu économique qui est assez énorme.
Et à contrario, tu parles de ton club et éventuellement de ses investisseurs. Toi, pour ton équipementier, du coup, vous avez des clauses qui vous obligent à ne pas vous afficher avec d'autres marques, par exemple?
Bah, à chaque présentation de match ou à chaque échéance, on est forcé de mettre forcément la marque qui nous produit, c'est sûr.
Jean-François, qu'est-ce que vous conseillerez à Fanta si vous l'aviez comme cliente, si vous deviez gérer son image, et plus généralement pour une jeune sportive issue d'un sport qui est pas forcément médiatique comme le handball?
Je peux pas vous répondre parce que je la connais pas, parce que le premier travail moi personnellement que je fais avec quelqu'un que je dois représenter, que je suis censé représenter, c'est de le connaître, et je dirais même que moi je ne représente que des gens pour qui j'ai une part d'affectif. Parce que autant quand on se fait représenter, il faut avoir une forme de confiance. Donc on donne quand même du pouvoir sur son image à quelqu'un. Donc c'est quand même important. Et à l'inverse, moi, j'ai besoin de connaître cette personne et de construire, et c'est ce qui est beau dans mon métier, en tout cas comme je le fais, c'est de construire un chemin, une route. Alors, c'est jamais tracé d'avance, mais donc la première des choses que je ferai avec Vanda, c'est de la connaître pour voir ensemble, justement, vous parliez de la publicité, de l'argent, etc. Moi, avec les sportifs que je présente, on n'a pas tout fait. Pourtant, des fois, on nous a proposé des sommes astronomiques dans certains cas, parce que des fois, on préfère la longévité du chemin que le profit immédiat. Donc voilà, ben, après l'émission avec Fanta, on ira se connaître.
Mais du coup, la question, c'était aussi de savoir comment, quand on a quelqu'un, un sportif aussi jeune, qui est prometteur, qui est à l'aube de sa carrière, comment on fait pour l'accompagner? Est-ce que c'est différent
d'avec les autres? C'est plus facile que prendre quelqu'un qui est à l'apogée de sa carrière, où tout a été dit, tout a été fait, parce que tout est à construire. Moi, c'est ce qui me plaît. Tout à l'heure, je citais en off un sportif... jeune que je vais bientôt récupérer dans le handball et donc mais par exemple tout à l'heure on parlait de Florent Manodou ou d'autres que vous connaissez pas. Moi je suis beaucoup plus exalté dans ces cas-là parce qu'on répond à des équations avec plusieurs inconnus et on les construit ensemble parce que moi je pense qu'on peut pas vendre du faux et du vent. Et donc, moi, j'aime insister sur les qualités des personnes. Et puis, ils ont tous des défauts, puisqu'on est tous faits de qualités et de défauts. Et donc, ça, on essaye de le bâtir. Et donc, justement, on parlait de réseaux sociaux. Il y a des gens qui aiment plus ou moins s'exposer. Il y a des gens qui ont des manques dans la communication orale. Il y a des gens qui ont des problèmes avec leur corps, puisque quand on fait, par exemple, des partenariats, on passe toujours par la phase de shooting, photo et voire vidéo. Là aussi, ça peut donner lieu, certaines des sportifs que je représente prennent des cours de théâtre, parce qu'il y a une notion de maîtrise du corps. Ça peut paraître bizarre, mais pour des sportifs qui usent de leur corps, mais certains, quand ils sont devant un appareil photo, c'est plus la même chose. Pourtant, quand on prend des nageurs, ils sont quasiment nus toute la journée. Mais dès qu'ils sont devant un appareil photo ou une caméra, c'est complètement différent. Et donc ça aussi, ça se construit. Puis après, il y a des objectifs. C'est-à-dire qu'on peut définir des images, enfin des prismes d'images. Je vous donne deux exemples faciles parce que vous allez voir, il y a deux grands nageurs que j'ai actuellement, qui sont Camille Lacour et Florent Manodou. Ben, Camille Lacour, aujourd'hui, représente le sportif glamour par excellence. Et donc, ça va être des marques, souvent, qui veulent féminiser leur audience, etc. Ça a été travaillé, ça a été choisi. Quand on veut aller dans ce chemin, ben on choisit plusieurs des médias qui vont dans ce sens, on fait des opérations qui vont dans ce sens. Et puis il y a Florent Manodou qui a une image plutôt technique, jeune, geek. C'est pour ça que des marques comme Microsoft, Icewatch, etc. se rapprochent de lui. Et parce que ça correspond aussi à sa personnalité. Et ça, on l'a bâti bien longtemps. Alors on ne se rend pas compte parce qu'on ne voit que la face visible de l'iceberg, mais c'est des choses qu'on a bâties dès le départ, et c'est ça qui est assez exaltant dans mon métier.
Et toi, Fanta, est-ce que tu serais prête à être accompagnée dans la gestion de ton image si tu contactais un pro de la communication comme Jean-François? Qu'est-ce que tu attendrais
plutôt tech ou glamour? On commence maintenant.
Mais c'est vrai qu'au final, ce qu'il dit, c'est pas faux, c'est qu'au final, il faut connaître la personne, tout simplement. On peut pas tout de suite essayer de caler quelque chose avec le sportif ou avec l'agent et dire voilà, ça je le ferai, ça je le ferai pas, ou voilà, à chaque fois il faudra que tu sois comme ça. Et je pense que la confiance et surtout la compréhension est là où les deux personnes veulent aller. C'est essentiel et important pour l'image de la personne et vraiment dans les règles de base, je pense, du jeu, si je puis dire, entre les médias et les sportifs.
Petite question pour tous les deux, pour terminer. Jean-François, si tu devais, comme ça, citer l'exemple pour toi du sportif au niveau de la communication aujourd'hui, t'as pas le droit de citer tes sportifs, c'est trop facile. De qui tu nous parlerais et pourquoi?
Le meilleur exemple?
Ouais. Celui qui, pour toi, communique le mieux aujourd'hui.
C'est une bonne question.
Tu peux pas sortir les tiens, t'es embêté. Hein.
Je réfléchis aussi, pareil, ouais. C'est assez dur parce que t'en as qui communiquent assez bien, mais au final, voilà, c'est vraiment que du paraître et c'est vraiment un jeu avec les médias qu'ils ont et ils ont compris le truc. Et t'en as d'autres qui, à mon sens, communiquent bien, mais naturellement, et c'est pas forcément ce qu'on pense directement. Je pense par exemple à Pierre-Ambroise Boss. Je trouve qu'avec avec les médias, il est vraiment naturel. Et des fois, il peut être peut-être, on va dire, soit maladroit ou voilà, mais le mec, voilà, il est spontané. Il est cool, il est voilà, il dit ce qu'il pense. Ouais. Quand il fait une mauvaise course, bah voilà, il le dit, il fait une mauvaise course. Et pourtant, t'as beau avoir Nelson Montfort qui lui dit oui, mais c'est bien ton record, tu l'as battu, non. C'est voilà, un sportif, c'est voilà, toujours se surpasser. Et lui, c'est clairement ce qu'on voit à chaque fois sur ses interviews.
Alors, celui que je vais citer, je sais pas si c'est la meilleure communication, mais en tout cas, pour moi, c'est celui qui a trouvé le meilleur équilibre. C'est Tony Parker pour moi, qui est quelqu'un de sympathique. Plutôt accessible pour le connaître, enfin pour avoir eu affaire avec lui, qui s'amuse avec des choses qui sont pas, il a sa propre émission, il investit dans son sport, il est capitaine d'industrie, je crois qu'il donne beaucoup aux jeunes aussi, sans automatiquement le médiatiser, et je trouve que c'est un bel exemple d'équilibre, et en plus de réussite sportive.
Il est temps pour nous de conclure cette émission. Merci beaucoup Fanta Keita et merci beaucoup merci Jean-François Salessi pour vos témoignages. On espère que cette émission vous a remis les idées au clair sur la communication des sportifs de haut niveau. N'hésitez pas à vous connecter sur notre page Facebook Tête de Com, Tête au pluriel, Radio Campus Paris et Twitter @TêteDeCom pour avoir toutes les infos sur les prochaines émissions. Voilà, comme les sportifs, on est aussi présents sur les réseaux sociaux et le podcast arrive d'ailleurs très bientôt. Maintenant, tout ce que j'ai à vous dire, c'est rester sur Radio Campus Paris parce que vous êtes très bien ici. Et vous savez quoi, nous aussi, on va rester avec vous pour écouter La Souterraine. Et la semaine prochaine, à 20h, on sera encore là pour écouter Le Comptoir Digital. Et dans un mois, nous serons toujours ici sur ce plateau car on se retrouve vendredi 4 mars à 20h pour une nouvelle émission de Tête de Com. A très vite, salut!